Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, l'émission de reportage de France Inter depuis l'école occupée Coyas au Igil de Barcelone pour la première partie de l'heure.
En direct donc de Barcelone, pas encore indépendante, avec Antoine Chao et aussi du studio 511, une émission réalisée par Jérôme Chélus, assistée de Lucille Valérie, avec à la technique aujourd'hui Valentin Azan-Zielinski.
Au sommaire aujourd'hui, un chassé-croisé depuis la Catalogne où la tension monte avant le référendum interdit et la banlieue parisienne où la tension monte aussi dans l'usine occupée des Semperit. D'un côté, des indépendantistes catalans dans l'Europe des nations et de l'autre, des salariés français dans l'Europe des marchés.
Nous pensons que pour la Catalogne, il faut une solution définitive. Et vu la répression qu'on a subie par le Parti populaire ces derniers jours, nous croyons que le vote du 1er octobre pourra difficilement se dérouler de façon démocratique.
C'est les actionnaires qui gagnent, c'est pas nous. C'est quoi cette inversion totale des valeurs? Vous comprenez ce que je veux dire? Et nous, on est seul au monde. On est seul au monde, ça suit pas. Vous comprenez ce que je veux dire?
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits?
Comme un bruit d'insurrection qui monte donc dans l'usine Semperit d'Argenteuil, occupée depuis jeudi par les salariés. Mais un bruit d'insurrection qui monte aussi à Barcelone. Que va-t-il se passer demain, dimanche 1er octobre, en Catalogne? À la veille du référendum sur l'indépendance, la question est sur toutes les lèvres et le mystère reste entier. Les Catalans pourront-ils s'exprimer contre la volonté de Madrid qui considère ce scrutin illégal? Dans quelles conditions, étant donné que 4000 policiers sont parqués dans des bateaux de croisière dans le port de Barcelone.
Dans le paquebot aux couleurs de Titi et Gros Minet, au casou.
C'est une allusion, Antoine, au jeu du chat et de la souris entre policiers et organisateurs du référendum qui se chassent comme dans le dessin animé. Et que va-t-il se passer donc non seulement demain, mais aussi les jours d'après? Car la Catalogne ne va pas dresser des barbelés autour de sa frontière dès lundi, même si le vote a lieu et que le oui l'emporte. Alors en attendant demain, l'Europe retient son souffle, Madrid aussi. Et à Barcelone, l'ambiance est pour l'instant plutôt détendue, Antoine.
Bon enfant même, dans cette école primaire qui est occupée comme 160 autres établissements scolaires qui accueilleront les bureaux de vote demain dimanche.
Eh bien, pendant qu'Antoine suit en direct le référendum interdit, moi je vous propose de retourner à Argenteuil, retrouver les Semperit rencontrés la semaine dernière dans leur usine bientôt délocalisée en Pologne, au nom de la course au profit. C'était peut-être la chronique d'une mort lente annoncée, mais j'ai reçu jeudi un coup de fil annonçant qu'après un nouveau refus de négociation de leur multinationale, ils avaient voté la grève et l'occupation de leur usine. Bref, un bras de fer est engagé là aussi, et vous doutez bien qu'on devait aller les y retrouver.
Comme un bruit d'insurrection qui court en Catalogne et aussi à l'usine Semperit occupée, c'est jusqu'à 17h sur France Inter et c'est parti.
Les rues seront toujours à nous. Les étudiants dans la rue.
Même si les indépendantistes sont toujours résolus à organiser un référendum d'autodétermination en prenant le contrôle de la police catalane, Madrid fait un pas de plus pour empêcher l'organisation du scrutin. Il n'y aura pas de retour en arrière possible, affirme Mariano Rajoy.
Il n'y aura pas de référendum car aucune démocratie dans le monde, personne ne peut accepter la liquidation de la Constitution et les normes de coexistence qui ont été accordées. Maintenir ce référendum provoque seulement le ridicule et franchement une tension inutile dans la société.
Antoine Chao,
Charlotte Perry,
Guy Vauctil,
Comuna Ramón Cacorra.
Hashtag Con Arruí.
Un rassemblement d'élèves, d'étudiants de Barcelone, ici sur la place de l'université, en centre-ville.
Et nous manifestons parce que nous voulons voter ce dimanche, parce qu'il y a la possibilité de que nous ne pouvons pas voter. Et la police à les écoles.
La police est dans les écoles, oui. A investi les écoles aujourd'hui, oui. Ce matin.
Oui. Et nous voulons liberté dans notre pays.
Toujours à nous. Les étudiants dans la rue. Ni terroristes, ni délinquants, nous sommes des étudiants conscients.
Oui, parce qu'on sait ce qu'on doit faire et des moments comme ça, on doit sortir à la rue, défendre notre droit.
Et vous êtes inquiète pour dimanche, pour le vote ?
Non, pas du tout.
Tout va bien se passer.
Oui, on doit défendre ça et on doit aller à voter pour ce qu'on veut.
Donc vous voulez avoir le droit de voter déjà pour commencer ?
Oui.
Et après ?
Et après, on verra, on changera tout, on espère. Et comme l'Espagne, ils ne donnent pas les changements, donc on doit faire sans l'Espagne et commencer avec idéalisme, ce qu'on veut.
Donc vous pensez que vous pourrez plus changer la société catalane que la société espagnole, c'est ça ?
Oui.
Vous avez quel âge ?
Moi, 22.
Et vous étudiez quoi ?
Sciences environnementales.
Et vous êtes très mobilisée dans les universités aujourd'hui ?
Oui, beaucoup d'universités, ce qu'on appelle les universités pour la République, ils ont fermé toutes les universités, les écoles.
Nous voterons dimanche donc pour ce scrutin, ce référendum sur l'autodétermination. Un scrutin sous tension ici à Barcelone et dans toute la Catalogne. Les rues seront toujours à nous. Alors il y a une femme qui est sortie à son balcon qui agite deux drapeaux catalans. Et donc c'est vraiment l'ovation de la part des étudiants qui marchent aujourd'hui depuis la Plaza de la Universidad jusqu'à la station de Sants.
Pas de bureau de vote, pas de référendum d'autodétermination en Catalogne. En les neutralisant, la justice espère dissuader les Catalans de participer à un scrutin interdit par le pouvoir central. Les lycéens favorables au référendum se sont mis en grève pour occuper leur établissement qui pourrait servir de bureau de vote.
Cristina Ginel, Euronews, Barcelone.
Pourquoi vous manifestez aujourd'hui avec votre pancarte « Mama vuol marchar de casa »« Maman, je veux quitter la maison ».
Parce que l'Espagne perd beaucoup d'argent à Catalogne.
L'Espagne demande trop d'argent à la Catalogne, c'est ça ?
Oui, elle perd beaucoup d'argent à Catalogne et nous voulons plus de démocratie.
Vous voulez plus de démocratie ?
Pour que nous puissions voter.
Pour pouvoir voter dimanche, oui.
Si, dimanche, le 11 octobre.
Vous avez quel âge ?
16 ans.
Et c'est une question qui vous préoccupe, ce référendum ?
Oui, parce que c'est notre futur. Si nous pouvons voter, l'indépendance gagne.
L'indépendance gagnera si vous pouvez voter.
Si.
Dehors les forces d'occupation.
On est ici parce qu'on croit qu'on a le droit de ce dimanche à pouvoir décider si on veut être indépendant ou pas.
Et vous êtes inquiète sur le déroulement de ce référendum dimanche ? Sur comment ça va pouvoir se faire ?
Comment vous
allez pouvoir vous exprimer ?
Oui, oui, on ne sait pas. Il y a beaucoup de répression de l'État espagnol, alors on ne sait pas ce qu'il va se passer, mais on va voir.
Alors là, c'est comme un jeu du chat et de la souris. Il y a le chat, donc l'État espagnol qui essaye de récupérer les urnes, de récupérer les bulletins. Et il y a toute une organisation en même temps qui essaye de défendre cette possibilité de s'exprimer, c'est ça ?
Oui, 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 c'est ça. C'est comme Tom et Jerry.
Comme Tom
le
et Jerry.
Le chat et le souris.
Voilà, voilà. Ouais.
Mais bon, on doit rester avec calme, je pense, parce que c'est très important de démontrer qu'on le peut faire d'une manière pacifique. Et c'est ça, on verra, ouais.
Et qu'est-ce que vous reprochez à l'Espagne, à l'État espagnol ?
Je pense qu'il n'y a pas eu un bon dialogue avec Catalogne et Espagne. Il n'y a pas eu de dialogue, alors on doit faire quelque chose. Parce qu'il y a une nécessité réelle.
Qu'est-ce que vous étudiez ?
On étudie les mathématiques ici. Ça, c'est l'université historique de Barcelone. On étudie ici.
Et vous avez quel âge ?
19 et 20. Ouais.
Merci, bon courage.
Merci, à vous.
Alors Antoine, comment ça se passe là-bas ? Raconte-nous depuis Barcelone où tu te trouves en ce moment.
Alors là, je suis dans la petite école Coyas au Égile. Alors c'est très très détendu. Il y a eu une paella participative là tout à l'heure. Ça joue aux échecs dans la cour. Il y a des enfants qui s'initient aux échecs parce que effectivement, on se dirige plus vers une partie d'échecs à plusieurs bandes que comme un choc des trains, comme ça avait été craint, un choc de train entre Madrid et Barcelone. Là, c'est plutôt assez stratégique, c'est en train de se passer. Alors, il y a bien eu des manifestations aujourd'hui contre ce référendum par, à Madrid et à Barcelone, mais il y a surtout eu toute une semaine de mobilisation, tout un mois même, par donc les défendeurs, les partisans du référendum qui s'inquiètent de ne pouvoir s'exprimer demain. Après un mois mouvementé, des intimidations, des poursuites judiciaires orchestrées par Madrid contre ce scrutin d'autodétermination de la Catalogne, donc qui devrait normalement se dérouler demain. Alors je vous propose de faire un petit retour en arrière et un compte à rebours de ces derniers jours qui pourraient ébranler la péninsule ibérique et même toute l'Europe. On y va, c'est parti.
Maintenir ce référendum provoque seulement le ridicule et franchement une tension inutile dans la société.
Une tension innecessaria en la sociedad.
Si la Catalogne est déjà gouvernée par les indépendantistes, ses 7,5 millions d'habitants restent très partagés. 49% seraient contre la sécession, 41% pour. En revanche, plus de 70% d'entre eux souhaitent pouvoir s'exprimer.
Il y a un grand espoir de la part de la population catalane de s'exprimer, donc.
No va a haber referéndum.
Bien évidemment, il y aura un référendum.
Je m'appelle Anthony Sfez, je suis doctorant en droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas et je fais ma thèse sur la question du droit à l'autodétermination de la Catalogne.
Alors Anthony Sfez, vous parlez de révolution. Ce qui se passe en ce moment en Catalogne, vous parlez d'une période révolutionnaire.
Au sens juridique, c'est une révolution parce qu'il y a une tentative de la part des institutions catalanes, du Parlement catalan et du gouvernement catalan, de substituer la légalité espagnole par une nouvelle légalité qui est la légalité catalane. Donc c'est pas juste une insubordination. Quand il pourrait y avoir des manifestations qui ont lieu quand elles sont illégales. Ça, c'est la désobéissance civile. Là, c'est la prétention de régir et de distinguer à travers un nouvel ordre juridique le légal de l'illégal. Et donc, du point de vue du gouvernement catalan, c'est le référendum suspendu par le tribunal constitutionnel est parfaitement légal, puisqu'il se fonde sur le nouvel ordre juridique issu de la souveraineté prétendue du peuple catalan et du Parlement catalan. Et évidemment, en face, ce que dit le gouvernement espagnol, c'est que non. La constitution espagnole, pour le gouvernement espagnol, elle est toujours en vigueur sur le territoire catalan. Donc c'est elle qui détermine la limite, la constitution, entre le légal et l'illégal. Et par conséquent, désobéir à des obligations fixées par le tribunal constitutionnel, c'est une violation du droit. Donc là, on a un conflit entre deux ordres juridiques. Donc on a une tentative révolutionnaire. Et dans ce type de situation, c'est pas une théorie juridique ni une décision juridictionnelle qui va permettre de trouver une solution. C'est l'effectivité. C'est quel ordre juridique va s'imposer. Et celui qui s'impose, il s'impose soit de nos jours grâce au soutien de la communauté internationale parce qu'il est reconnu par les autres États, parce qu'il il s'est fait de manière et selon des critères démocratiques. À une certaine époque, c'était militaire. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. On espère que ce sera pas comme ça. Mais c'est pour ça qu'il y a une véritable bataille pour faire en sorte d'être reconnu par la communauté internationale et qu'il y a la volonté du gouvernement espagnol d'éviter que le gouvernement catalan et le processus catalan ne soient légitimés du point de vue international. Donc c'est un enjeu exceptionnel pour le gouvernement espagnol, c'est d'éviter des débordements, des exactions et l'impression qu'il y a une imposition autoritaire d'un ordre juridique qui est refusé par les Catalans. Et l'enjeu des Catalans, c'est justement l'inverse. C'est d'essayer de démontrer qu'eux, ils ont tout fait pour s'autodéterminer de manière pacifique, qu'ils ont tout fait pour essayer de trouver une solution à l'emboîtement de la Catalogne dans l'Espagne, mais qu'en face, ils ont eu que des refus de la part du gouvernement espagnol. Par conséquent, ils sont en quelque sorte obligés d'en arriver à ces extrémités. Donc, il y a beaucoup de storytelling dans tout ça. Chacun raconte son histoire pour essayer d'être compris et bien compris de l'extérieur. Et le principal objectif, c'est de convaincre l'extérieur, parce qu'au XXIe siècle, dans un État démocratique, dans une Europe démocratique, la seule possibilité d'imposer un ordre juridique, c'est pas la violence, c'est d'être reconnu comme étant légitime, le plus légitime possible par les autres. Donc c'est un appel à la communauté internationale que font les deux camps.
Le 7-9.
Léa Salamé, 7h50, votre invitée ce matin est président de la Généralité de Catalogne.
Dimanche prochain, Carles Puigdemont, allez-vous vraiment organiser un référendum d'indépendance en Catalogne?
Ben oui, tout est en marche. Il y a une grande expectation Il y a un grand espoir.
Il n'y aura pas de référendum car aucune démocratie dans le monde, personne ne peut accepter la liquidation de la Constitution et que la souveraineté nationale soit liquidée. Personne.
Est-ce que ce n'est pas plus responsable de reconnaître que non, ce n'est pas faisable dimanche prochain?
Mais non, parce qu'on a prévu qu'il pouvait y avoir une réaction de l'État de ce niveau, même si c'était une réaction complètement hors de la Constitution espagnole, parce qu'ils ont agi comme s'il y avait un état d'exception et la suspension de l'autonomie sans aucun débat parlementaire. Donc on a prévu cette éventualité, et donc je suis en train de confirmer qu'il y aura des caisses de votation, il y aura de papiers pour s'exprimer, et surtout, ce que c'est plus important dans un référendum, il y aura des votants.
Nous voterons. Dimanche donc, pour ce scrutin, ce référendum sur l'autodétermination.
Alors justement, il y aura des votants, vous nous dites. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un taux d'abstention qui soit immense, que tous ceux qui sont contre ce référendum n'aillent pas voter?
Et justement, c'est passé le contraire. Les dernières semaines, à partir de cette réaction violente, répressive de l'État, tous les sondages, et là, c'est qu'on voit exactement chaque jour à la rue, c'est qu'il y a une grande mobilisation et que c'est absolument indiscutible qu'il y a une large majorité, plus de 80% de gens en Catalogne qui veulent s'exprimer.
En 1978, l'Espagne s'est dotée d'une constitution démocratique et avec une caractéristique très différente par rapport au régime antérieur qu'avait connu l'Espagne, c'est-à-dire qu'elle était politiquement décentralisée. Elle a institué des communautés autonomes qui avaient un pouvoir important. Donc les Catalans, au début, étaient ravis, parce qu'ils avaient, pour la première fois de manière durable, un système politique qui leur permettait de s'auto-gouverner. Mais ils avaient aussi une autre ambition, qui n'était pas seulement de s'auto-gouverner, mais d'essayer de transformer l'Espagne, de lui faire prendre conscience de sa plurinationalité. En un mot, l'ambition catalane était de faire de l'Espagne un État multinational. Alors évidemment, pour les Espagnols, c'était impensable. C'était impossible, imaginable que l'on puisse revenir sur un principe qu'ils considéraient comme essentiel, à savoir l'unité du peuple espagnol. Et ils pouvaient accepter l'autonomie des communautés autonomes, mais en aucun cas reconnaître l'existence au sein de l'État espagnol d'autres nations que la nation espagnole. Les Catalans ont essayé de concrétiser le modèle territorial espagnol instauré en 1978 dans un sens qui leur était favorable, avec le statut d'autonomie de la Catalogne de 2006, qui définissait la Catalogne comme étant une nation et qui augmentait son autonomie. Mais ce statut a été censuré, a été annulé en grande partie dans ses objectifs par le tribunal constitutionnel espagnol. Et c'est depuis que les Catalans réclament l'exercice du droit à l'autodétermination. Ils ont d'abord demandé à ce que soit organisé un référendum de manière concertée avec l'État espagnol. À plusieurs reprises, la communauté autonome de Catalogne a envoyé des demandes formelles à l'État espagnol à ce que soit organisé ce type de référendum comme en Écosse. Mais le gouvernement espagnol, considérant qu'un tel référendum ce serait contraire à la Constitution, puisque remettrait en cause le principe d'unité de la nation espagnole, considérant en clair que s'il devait y avoir un référendum, il pouvait se faire qu'à l'échelle nationale, comme par exemple ça s'est fait en France avec l'Algérie, c'est à l'échelle nationale que le référendum devait se faire et pas à l'échelle de la seule communauté autonome catalane. À l'inverse, les Catalans considéraient que c'était eux qui avaient le droit de se déterminer puisqu'ils étaient une nation. Donc entente impossible, refus d'un côté et constat du refus de l'autre côté. Ce qui mène aujourd'hui à une situation d'unilatéralisme, c'est-à-dire une volonté de la Catalogne d'organiser elle-même, depuis donc une légalité qu'elle a fondée, un référendum d'autodétermination sur la question de son appartenance à l'Espagne.
Vous allez nous expliquer pourquoi, dans un instant, vous allez nous expliquer pourquoi vous voulez vous séparer de l'Espagne. Mais avant...
Con la mano levanta, al pasado le digo adiós, y el futuro que vendrá, dicen que pende de un hilo. Y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye, mi hermano, disfrutará el camino. Con la mano levanta, tocaré, estoy tocando el cielo. Con la mano levanta, tocaré, estoy tocando el cielo.
Le Royaume d'Espagne a signé le traité international dans lequel est reconnu le droit à l'autodétermination des peuples. Ça, c'est évidemment le cas de la Catalogne.
Alors, Anthony Sfès, quelles sont les forces politiques aujourd'hui qui poussent justement à ce que ce référendum se fasse? Il y a quand même des alliances improbables.
Alors oui, il y a aujourd'hui une coalition indépendantiste au Parlement de Catalogne qui résulte des élections autonomiques de novembre 2015. Et on trouve dans cette coalition, effectivement, c'est complètement elle n'est pas du tout homogène, cette coalition, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ils sont tous mus par un objectif commun qui est la célébration du référendum et l'indépendance. Alors, qui y a dans cette coalition? On trouve la coalition de Junts pour el Sí, Ensemble pour le Oui, qui est composée des républicains d'Esquerra Republicana, per Catalunya. C'est la gauche républicaine catalane qui, elle, a rejeté la constitution de 78 depuis le début, parce qu'elle n'était pas une constitution issue d'un pacte entre des entités préexistantes, entre les nations, différentes nations espagnoles, mais le résultat de la seule volonté de la nation espagnole, donc ils l'ont rejeté depuis le début, allié avec le grand parti catalan, celui qui a été au pouvoir quasiment de manière ininterrompue depuis 1978, qui est Convergence et Union. C'est You qui, lui, s'est converti à l'indépendantisme, qui est plutôt un parti de centre-droit. Donc déjà, vous avez une alliance un peu hétéroclite, puisqu'on a le centre-droit de CIU, avec Esquerra Republicana sous une seule et même étiquette qui est Junts por el Sí. Mais à eux, ils n'ont pas la majorité. Après les élections, ils ont eu un nombre de sièges assez élevé, mais pas la majorité absolue au Parlement catalan. Donc ils avaient besoin d'une alliance pour gouverner et pour mettre en place le processus de rupture. Et cette alliance, ils sont allés la chercher chez un autre parti indépendantiste qui s'était présenté tout seul, qui est la CUP. La CUP, c'est la candidature d'Unité Populaire, qui est un parti d'extrême gauche, vraiment extrême gauche, et qui se caractérise en plus donc, de son indépendantisme catalan par sa volonté de quitter l'Union Européenne. C'est-à-dire que les deux autres partis catalans de la coalition Junts por el Sí sont favorables à la sortie de l'Espagne et au maintien dans l'Union Européenne, absolument, et c'est même un enjeu fondamental. Ils veulent absolument rester dans l'Union Européenne, et ils disent que d'ailleurs, s'ils ne sont plus dans l'Espagne, ils resteront dans l'Union Européenne de facto, qu'ils ne sortiront pas en cas de sortie de l'Espagne de l'Union Européenne. Alors que la CUP, elle, considère que l'Espagne doit sortir de l'Union Européenne, qu'elle est identifiée comme une sorte de régime capitaliste qui les empêcherait de faire la véritable révolution. Donc c'est vraiment un parti très assez radical. Voilà, c'est les trois partis de la coalition. C'est vraiment que l'objectif de l'indépendance qui les unit.
Il y a une autre force politique en puissance, c'est Barcelona en Comun, ou Catalogne en Comun, donc qui est le parti, on va dire, issu du mouvement du 15e des indignés espagnols, et qui aujourd'hui ont pris la mairie de Barcelone avec Ada Colau.
Eux se caractérisent, comme Podemos d'ailleurs, par le fait qu'ils sont favorables à l'exercice du droit à l'autodétermination de la Catalogne, qui n'est pas l'indépendance. Le droit à l'autodétermination, c'est la possibilité de s'exprimer sur la question de son indépendance, quitte à dire non. La possibilité de choisir s'ils veulent rester ou pas dans l'Espagne. Donc eux, ils sont favorables à ça, mais à un référendum concerté. Mais la position, là, en ce moment, en Catalogne, elle est un peu ambiguë, parce que d'un côté, ils nous disent qu'ils sont pour un référendum concerté, et qu'ils sont donc plutôt contre l'unilatéralité, mais en même temps, la mairie de Barcelone ne va pas empêcher, sur le territoire de Barcelone, qu'ait lieu le référendum dans les lieux publics de la municipalité. Ils ne sont pas dans la coalition indépendantiste, mais ils prônent un référendum, et aujourd'hui, ils dénoncent avec énormément de force, et ils font partie donc la grande majorité des Catalans, qui réprouvent par contre la façon dont est empêché, et certains disent réprimé, le référendum en Catalogne.
Moins de police et plus d'éducation.
La guerre juridique est officiellement déclarée entre la Catalogne et le pouvoir central espagnol. Depuis leur arrivée au pouvoir il y a 2 ans, les séparatistes ont promis de chercher à mener leur région à l'indépendance. Une région grande comme la Belgique, qui concentre 16% de la population espagnole et 20% du PIB du pays.
Alors c'est une conférence de presse de Barcelona en Comun qui va commencer, c'est même au-delà de Barcelona en Comun. Barcelona en Comun, c'est le parti d'Ada Colau, donc qui a gagné la mairie de Barcelone. Là c'est Catalunya en Comun, c'est le parti donc qui est issu vraiment du 15M des indignés. Et alors aujourd'hui c'est ce parti qui a une position un peu médiane dans cette histoire de référendum, parce qu'effectivement c'est un parti qui demande à ce que le vote puisse avoir lieu, et la mairie de Barcelone donc va faire son possible pour que le vote se passe le mieux possible dans la ville.
mais c'est pas forcément un parti indépendantiste. Donc ils appellent à voter, mais ils donnent pas de consigne de vote. C'est l'heure de la politique, du dialogue et de la démocratie. C'est la conférence de presse de Catalunya en Comú qui va commencer ici dans une grande salle, une maison de quartier, un centre civique, comme on les appelle ici, du quartier de Sants à Barcelone.
Je m'appelle Elisenda Alamany, je suis porte-parole de Catalunya en Comú.
Nous
pensons que pour la Catalogne, il faut une solution définitive.
Et
vu la répression qu'on a subie par le Parti Populaire ces derniers jours, et les poursuites qui ont été lancées contre les maires qui voulaient mettre à disposition des écoles pour voter, nous croyons que le vote du 1er octobre pourra difficilement se dérouler de façon démocratique.
Comme il ne se va pas avec normalité démocratique, nous croyons que la gente tiene el derecho de expresarse.
Nous pensons alors
quiera,
que les gens ont le droit de s'exprimer comme ils veulent.
A la participación para que la gente, pues, s'exprese votando,
nous appelons donc à la participation au référendum pour que la population puisse s'exprimer par le vote en ce 1er octobre
que nosotros consideramos que está
et puisse dénoncer
Popular,
la lâcheté politique du Parti Populaire.
Cataluña, sino también hacia el conjunto del resto
et ça ne concerne
del Estado español.
Pas que la Catalogne, mais tout l'État espagnol.
Nosotros estamos comprometidos con la defensa de los derechos sociales, con la
nous sommes engagés dans la défense
social,
des droits sociaux, avec un souci de transformation sociale et de renouvellement de la démocratie.
El proyecto de Catalunya en Comú también defiende la soberanía nacional.
Nous avons annoncé à maintes reprises que le projet de Catalunya en Comú défend aussi la souveraineté nationale.
Los social son el mismo plano y por tanto creemos que nosotros nos debemos al 80%
de la
gente
des gens qui veulent s'exprimer en Catalogne de pouvoir le faire.
Mismo. Esto es una reivindicación transversal de toda la sociedad.
C'est une revendication transversale de toute la société.
Lo que se va a dar es una movilización en la que nosotros tenemos
que participar à laquelle nous devons participer activement.
Pero que seguramente va a tener muchas dificultades para que al final sea considerado.
Il y aura certainement beaucoup de difficultés pour qu'au final ce référendum soit effectif, qu'il amène à une solution définitive et règle le conflit entre la Catalogne et l'État espagnol.
Alors, il est 10h du soir, dans le quartier de Poblenou, et on n'entend pas beaucoup de casseroles. Il n'y a qu'une pauvre petite casserole ici, dans le quartier de Poblenou. Bon, il y a le camion des poubelles, il y a le camion qui ramasse les poubelles. Mais c'est pas l'euphorie générale, quand même, de la casserolade à 22h tous les soirs.
Je ne sais pas pourquoi il y a si peu de casseroles ce soir. J'imagine que les gens ne sont pas disponibles à cette heure-ci.
Qu'est-ce que vous pensez de ce référendum ?
Je ne crois en aucun référendum et je ne fais confiance à personne, à aucun des fous d'ici ou de là-bas. Parce que je considère qu'ils se comportent comme des dictateurs et ne pensent qu'à détourner de l'argent. Et ils détruisent le pays. Oui, tous. Je crois qu'il faut des lois et de la politique, mais une politique bonne et saine, pas la corruption qu'on connaît aujourd'hui. Ils profitent du référendum pour faire oublier ce qu'ils ont volé. Et le gouvernement central, c'est derrière la question de l'indépendance qu'ils cachent ce qu'ils ont volé. Ils ont détruit notre pays. Ils l'ont totalement ruiné.
Vous allez aller voter quand même ?
Oui, sans aucun doute. Parce qu'il y a de très bonnes façons de faire de la politique et de façon saine, appliquer ce que l'on a à proposer. Alors je vais voter oui au référendum, parce que je pense que c'est un droit du peuple catalan. Mais je ne crois pas à l'indépendance catalane. Je pense que le peuple catalan a déjà largement gagné sa souveraineté. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise s'ils sont catalans ou pas.
La bicisette même par là-bas, des moumatis à porta. Mientras elle s'en espera, même, y'a le carrosse, y'a passa. Si z'est que non, vous restez un cas,
onestem to cigac. Si non pudem desfernosen, mai non pudem caminar. Si astirem to segna caura, i monetens no pot dura. Segur que tomba, 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 ben por cara leus del ja. Si tu l'estime for per chi, io l'estime for per ja. Segur que tomba, 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 jens podrem arriverar. Segur que tomba, 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 jens podrem arriverar.
Diria que sì, però no.
Querem votar, nous voulons voter alors. L'école Collasso y Gilles dans le quartier du Raval.
Pero si, pero no.
Alors on est vendredi soir et effectivement ça commence à être un peu compliqué devant les écoles.
No es la Guardia Civil.
C'est pas la garde civile, donc c'est la police catalane hein,
oui,
qui,
oui.
Qui bloque la porte là.
Oui. Dit, d'une manière, una, potser, més amable que no se fan a los otros.
Mais de façon assez aimable. Pour l'instant, contrairement à ce qu'aurait pu faire la garde civile, quoi, la Guardia Civil.
Han de cumplir, han de cumplir.
Ils sont obligés d'obéir et empêcher aux gens de rentrer.
Priorizando una situación correcta y amable, no generando follón.
Donc en faisant attention à rester correct et qu'il n'y ait pas de...
Discúlpeme que yo lo interrumpa. Sí. ¿Por qué ellos impiden la entrada a la escuela? ¿Qué están las urnas en la escuela?
Mais pourquoi ils empêchent de rentrer alors?
Pues se supone que aquí si entran, si hay gente dentro, hasta el domingo pues es más fácil que luego entren las papeletas y las urnas.
Parce que si l'école est occupée jusqu'à dimanche, ce sera plus facile à ce que ça devienne un bureau de vote.
Yo durante muchos años he sido apolítico, o sea, no me ha gustado nunca la política, ¿no? Y ahora el que me ha hecho ser más político y más catalanista ha sido el Rajoy. Curiosament, tout le mouvement qu'ils ont organisé, ils...
Moi, jusqu'à présent, j'étais plutôt apolitique. Mais là, depuis ce qu'a fait Rajoy, toutes ces histoires avec Madrid et le gouvernement du PP, toute cette répression font que je m'intéresse à la politique aujourd'hui. Un
pays démocratique, précisément, une des choses qu'ils ne laissent pas faire, c'est voter.
Dans un pays qui se veut démocratique, moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'ils interdisent de voter, quoi. J'essaie d'ouvrir le portail là, mais. Mais là.
Tu vois, ça va, je crois, là.
Il y en avait un qui était dehors, là, qui est rentré par on ne sait où. Et là, il essaye d'ouvrir le portail. Il y a de plus en plus de monde devant sa bidouille. Alors, ça y est, il y a une petite affiche qui a été collée sur le portail de cette école. Comité de défense du référendum. Du quartier gothique Raval, aide-nous à garantir le droit de vote. Et connecte-toi sur le canal de diffusion de Telegram, comité de défense du référendum, Ciutat Vella. Et la porte vient d'être ouverte. Nous voterons, dit tout le monde, et les portes viennent de s'ouvrir. Donc il y a des centaines de personnes qui rentrent.
C'est plus une rien, mais ça ouvre.
Ah, ça s'est ouvert avec une clé tout simplement. C'est si simple. Un mystérieux bienfaiteur du référendum qui est venu et qui a permis à tout le monde de rentrer dans la cour. Et c'est parti pour 48 heures ici de veille électorale dans le calme, dans la non-violence et dans la bonne humeur. Pourvu que ça dure.
Alors Antoine, hier tu étais dans une des écoles que les partisans du référendum ont réussi à occuper sans violence et dans le calme pour que le vote puisse avoir lieu demain. Tu es retourné aujourd'hui et en début d'heure l'ambiance était détendue. Les gens avaient entamé une partie d'échecs au sens propre comme au sens figuré.
Oui, je suis toujours dans la cour de cette école. La partie d'échecs n'est pas terminée, non, et bien au contraire. Et tout le monde reste très vigilant. Il y aura de la musique toute la nuit pour que les occupants restent en éveil. Alors oui, le référendum aura très certainement lieu ici et ailleurs, sauf coup de théâtre de dernière minute. Mais a priori, l'option mano dura a été écartée par Madrid. Et c'est dès lundi que la prochaine partie va commencer. Politique, juridique et diplomatique, avec un nouveau rapport de force qui sera révélé par le résultat du scrutin demain.
Et donc, c'est une autre partie d'échecs aussi qui se joue en ce moment à l'usine Semperit d'Argenteuil. Car si en Catalogne, les partisans de l'indépendance veulent à tout prix rejoindre l'Europe, à Argenteuil, les ouvriers, eux, payent les pots cassés d'une Europe libérale.
Oui, et c'était pas le reportage qui était initialement prévu pour ce samedi. Il y a eu un changement de programme à la dernière minute. Parce que vous vous souvenez que ce reportage, peut-être, c'était la fin de la dernière usine de tapis roulant en France, à Argenteuil, 88 salariés, qui luttent contre sa délocalisation et les licenciement boursier. Une petite histoire pour certains, mais qui nous ramène à la casse du travail au nom du seul profit à une échelle humaine. Mais leur histoire s'est accélérée. Et Omar, ce syndicaliste, ce gaillard braillard qui nous avait ouvert les portes et les voies la semaine dernière, il m'a téléphoné, furax ce jeudi, pour me dire que la tension était montée d'un cran. Face au refus de négociation par la direction et les miettes qui étaient proposées, les salariés ont décidé de se mettre en grève et de bloquer leur usine. Un pas est donc franchi et nous sommes allés les retrouver pour leur première nuit dans l'usine occupée.
Leur usine part en Pologne.
On est une bonne usine.
Bonjour.
France Inter.
Oui.
Semperit, c'est 22 usines dans le monde. C'est 9000 salariés. Ah, c'est pas un petit, hein. Et les yeux dans les yeux, le directeur de l'époque, il me dit, mais monsieur, nous, pour un salaire ici, on a 3 Polonais. D'accord ? Et on a 8 Chinois.
Voilà ce que vous coûtez ?
Voilà ce que vous nous coûtez.
Comment voulez-vous rivaliser entre les Polonais et nous ? Ici, le petit salaire, c'est peut-être 1500 euros. Là-bas, le gros salaire, c'est 700 euros. C'est vite fait, le calcul est vite fait. Je veux dire, à la fin, on ferme. On est décapité, c'est tout, stop.
Activité au point mort, machines à l'arrêt, entrée bouclée à Argenteuil. Les salariés de l'usine Semperit se relaient
pour
dormir sur place.
Un lit à l'entrée de l'usine, une table pour manger. Les salariés ont installé leur campement. La fabrication de bandes transporteuses de caoutchouc partait en Pologne.
En bref...
Comment tu vas ?
Ça va, Omar ?
Vous allez bien ?
Bien.
Vous allez
bien ?
Vous voulez boire un petit café ? Une tisane ?
Ben, j'arrive.
Comme vous voulez.
Mon shérif, il est là. Tu ne l'as pas vu, shérif. Si vous voulez.
Oui. Bonjour, Guive, enchanté.
Tu veux la bouillotte, là ? Allez, shérif, il faut parler, il faut balancer. Il faut balancer le son. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ah, parce que moi, j'étais là il y a une semaine. Et là, j'ai reçu un coup de fil d'Omar qui me dit, faut venir.
C'est chaud pour nous. Hein. Là, aujourd'hui, on était étonnés. Le directeur, là, il a lâché. Il a dit, moi, j'en peux plus. Il faut négocier avec les Autrichiens. Il n'arrive pas à trouver une solution. Et là, on va faire des actions. On a commencé par cette action, bloquer l'usine. Et peut-être le dimanche, on va louer un car direction Paris 7e, l'ambassade de l'Autriche.
Ah bon ?
Ah oui, oui, oui. Ah, oui, oui, oui.
Là, il y a un seuil qui a été franchi. Là,
franchement, moi, ça fait 18 ans que je travaille ici. Il y en a qui ont 30 ans. Là, on part comme des pratiquement comme des chiens. C'est pas normal. C'est une délocalisation, point à la ligne, en Pologne, c'est tout.
Et donc du coup, ce soir, vous occupez l'usine ?
Ben oui, c'est le seul moyen pour se faire entendre, c'est le seul moyen. Parce que, on dirait les Autrichiens, ils sont sauvés, il n'y a personne, on ne voit personne. Pourquoi ? Je ne sais pas.
Tous les jeudis, ils se sont mobilisés pour montrer leur colère et demander de bonnes conditions de départ. Mais hier, ils ont estimé qu'une prime de 10 000 euros pour 20 ans d'ancienneté, c'était insuffisant. À bout, les salariés envisagent d'occuper l'usine jusqu'à temps qu'un négociateur autrichien vienne à leur rencontre, car cette usine appartient à un groupe autrichien et que personne n'est venu à leur rencontre. Ils envisagent par ailleurs de manifester devant l'ambassade d'Autriche à Paris.
Leur usine part en Pologne.
Sorti juste devant l'usine. Les drapeaux sont toujours là. Les slogans « touche pas à notre usine » sont toujours là, sauf que l'atmosphère a changé depuis une semaine.
Oui, l'atmosphère a changé. Mais depuis ce matin, et depuis l'annonce que la direction ne voulait pas revenir avec des propositions raisonnables, eh ben, on a décidé de tout bloquer pour faire venir un décideur, un Autrichien.
Et ça veut dire quoi concrètement, tout bloquer ?
Il n'y a plus personne qui rentre. Il n'y a plus personne. Voilà. Et c'est le seul moyen. On a essayé d'être patient, d'être dans le dialogue, mais voilà, on est obligé de mettre les moyens. Donc on sait qu'à partir de demain matin, on sera dans l'illégalité, mais s'il faut être dans l'illégalité pour faire bouger les choses, on n'a plus rien à perdre, nous. Hein. Donc demain, s'ils veulent ramener les huissiers, s'ils veulent ramener les CRS, tout ça, on est prêt. On est prêt à mettre le feu. Ah ouais, ouais, non, mais je vous dis, hein, moi je suis le délégué syndical, donc je canalise un peu les salariés, mais là à partir de demain, moi, chacun prendra ses responsabilités. Hein.
L'usine à la poulet. L'usine à poulet. Le bateau est en train de rouler. Le bateau roule.
Bonjour monsieur.
Attends, occupé.
Alors là, je me revoilà, Omar. Vous m'avez appelé tout à l'heure.
Oui, j'étais appelé tout à l'heure parce qu'à 14h, on a tenu une assemblée générale par rapport à ce qui s'est passé avec le directeur qui me dit « Oui, j'ai pas de proposition, je peux rien faire. Vous allez voir avec les Autrichiens. » On est arrivé à bout et on a arrêté toute la production et on a bloqué l'usine. Maintenant, on est en occupation jusqu'à la fin maintenant. Il n'y a personne qui rentre, il n'y a personne qui sort, sauf les ouvriers qui sont en grève.
C'est pour ça que là, tout d'un coup, là, pour le coup, l'usine est complètement silencieuse. Ah, il n'y a même plus le piston là, qui fait tchit tchit.
Il n'y a rien qui tourne. Même pas les femmes de ménage, ils ne rentrent pas pour faire le ménage. Ça, c'est jusqu'au bout. Parce que quand quelqu'un il a passé 18 ans, 20 ans ici, on lui donne 10 000 euros, on lui dit casse-toi. Non, ça ne se fait pas. Hein.
C'est ça qu'on propose ?
Ben oui. Le minimum, c'est 10 000 balles. Mais c'est de la rigolade, ça. Ça veut dire qu'on a fini avec eux. On a pris ce qu'il fallait prendre ici à Argenteuil, le savoir-faire. Les licences, on a emmené en Pologne, en Inde et en Chine. Et à la fin, dégagé, vous êtes plus rentable.
Et avec tout ça, donc cette multinationale autrichienne a pu verser à ses actionnaires...
Des dividendes de 25 millions en 2015 et 15 millions en 2016.
Ça fait 40 millions sur les deux dernières années.
Ouais, c'est les dividendes qu'ils ont touché les actionnaires, ça.
Et aussi, pendant ce temps-là, Semperit a touché des crédits d'impôt.
Ouais, 373 000 euros par l'État.
CICE, c'est crédit d'impôt compétitivité emploi.
Exact, ben c'est ça, c'est pour aider à créer encore de l'emploi et embaucher. Mais au final, ils ont empoché l'argent, mais ils mettent les gens dehors. Ils ramassent l'argent en France, du contribuable. Après, ben, on ferme Argenteuil.
Et donc là, le patron, la direction, vous les avez foutus dehors ?
Il est encore là. Ah oui. Il a encore de la chance, il est encore là parce qu'on avait une réunion CHSCT. Mais là, il finit, il prend ses clics et ses claques, il rentre chez lui. Demain, il ne rentre plus, hein. Sauf s'il arrive avec une proposition digne.
Et on l'a appris il y a quelques minutes, la direction vient d'annoncer qu'il n'y aurait pas de reprise des négociations tant que le site d'Argenteuil serait occupé.
Directeur qui sort là.
C'est pour ça que tous les salariés qui étaient sur le site là sont sortis pour l'accompagner jusqu'à sa voiture.
Exactement, oui. Il n'a plus le droit de rentrer maintenant. Il peut se casser maintenant.
Il peut déménager. Il a déménagé le directeur. On aurait dû le bloquer, ne pas laisser sortir avec les voitures.
Et voilà, c'est le directeur qui repart avec un sourire un peu figé, son sac à la main. Qui retourne à sa voiture au parking, il quitte l'usine, laissant les salariés maintenant en grêve, qui l'occupent et qui lui font une espèce de haie de déshonneur.
Il a vu ça un peu ? Il est super confiant là. Hein. Il était avec nous au début et maintenant il nous a lâchés. On était tous dans le même bateau, il nous a même dit « Rassurez vos familles, vous inquiétez pas. » Et voilà un directeur qui nous lâche maintenant. Et ouais, c'est la fin, c'est la fin. Et lui, il repart tranquille devant nous. Super, super. Quel patron alors ! Excellent, excellent. Un super patron qu'on a.
Ça y est, il est parti. Il s'est sauvé comme un lapin.
Sauvé
parce
comme
que le lapin, il nous a volé toutes les cartes.
La voiture est partie.
C'est à nous l'usine maintenant. On va gérer là maintenant l'usine. Hein. On va produire et on va vendre là. Voilà.
Bon, ça s'est passé calmement, mais ça y est, le directeur a quitté l'usine.
Bah, il a quitté l'usine pour l'instant. Ça fait un moment qu'on savait qu'il n'était pas apte à mener à bien les négociations. Là, ce matin, ils ont carrément fait un rétropédalage par rapport à ce qu'ils nous avaient proposé. Donc déjà qu'ils nous avaient proposé des cacahuètes et en fin de compte, bah, carrément, ils reviennent sur le peu de cacahuètes qu'ils nous avaient proposé. Carrément, ils font complètement marche arrière. Donc à mon avis, bah, ils doivent se dire, bah, en fin de compte, on négocie pas, on ira au prud'homme et puis on verra ça là-bas.
Parce que maintenant, avec la nouvelle loi, c'est plafonné les indemnités de licenciement au prud'homme.
Donc bah, là, sincèrement, on est vraiment déboussolé parce que bah, là, c'est coup sur coup sur coup. Et vraiment, on ne sait plus à quoi s'en remettre. Il n'y a plus de calendrier, il n'y a plus de négociation. Vous faites un pas en avant, en fin de compte, vous en faites quatre en arrière le lendemain. Donc franchement, sincèrement, là, on est perdu.
Oh, oh, oh. Attends, je suis en train de parler, on ne s'entend pas. Oh. Putain.
Oui, on s'échauffe là un peu.
Ah, et encore là, je crois que ça va vraiment monter crescendo parce que là, déjà, sincèrement, on a eu de la chance de pas qu'il n'y en ait pas de nous qui fasse une bêtise parce que là, avec la tension qu'il y a depuis fin juin, depuis qu'on a su qu'on allait fermer, c'est tendu tous les jours. On est à deux doigts qu'il y a un drame. Il y a l'essence, il manque juste l'étincelle. Il y en a un de nous qui va craquer. J'espère que ça ne sera pas moi, j'espère que ça ne sera pas un de mes collègues, mais c'est sûr que ça va craquer quelque part. Là, on se demande vraiment plus à quoi ils jouent. Est-ce qu'ils veulent voir de quoi on est capable? Est-ce qu'ils veulent nous tester ou est-ce qu'ils nous prennent sincèrement vraiment pour de la merde? Là, on comprend vraiment pas.
Et alors, qu'est-ce qui va se passer là dans les heures qui viennent? Certains vont rester.
Ah, là, on va récupérer nos droits. Là, l'usine, elle est à nous. C'est nous les salariés, c'est nous qui l'avons bâti cette usine, c'est nous qui l'avons fait grandir, c'est nous qui avons fait des bénéfices. Les bénéfices, c'est les salariés qui les ont ramenés. Et bien là, on va reprendre nos droits. Jusqu'à notre licenciement, on va reprendre le droit. Notre usine, elle nous appartient, on est chez nous. Jusqu'à temps qu'on nous mette à la porte, et bien l'usine, elle est à nous, il n'y a plus personne qui rentre.
On ne peut pas virer les gens comme ça, c'est pas possible, c'est pas des Kleenex. Mais vous savez, quand je suis rentré ici, ça fait 16 ans que je suis là. Quand je suis rentré ici, j'ai vu que des gars, ils avaient 25 ans d'ancienneté, 30 ans d'ancienneté. Ça se fait plus, hein. Ils sont périts. Ils ont pris tout le savoir-faire, les licences, enfin tout ça. Grâce à ça, ils ont acheté la Pologne.
Ne les pas ta main en l'air, les vautours ne sont pas loin. Au royaume des bâtards, les fils de pute ne sont pas moins. On tente de réussir par la voie légale, on gratte à la fin. On t'encule avec un sourire de démocrate. C'est triste pour être honnête, nous sommes les cocus de l'histoire. Les éternels lésés, la pute morte dans le pressoir. Les pseudo-politiques sociales pour juguler l'hémorragie. L'emploi disparaît, je vois détourner peu de magie. Je frôlerai bien l'abandon, qu'à l'affaire t'en parangon. Parlons bien mais parlons court, leur foutu JT rencontre. En attendant d'échouer encore, j'ai de l'encre à délayer. Je recherche un boulot, au fond même pas bien payé. J'avale du béton, le métro me sort par les narines. Y'a bien que les gros poissons qu'on ne roule pas dans la farine. On se rappelle qu'on est des hommes quand la folie nous fait du gringue. Plus joli Proudhon, plus j'ai envie d'acheter un flingue. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta rente. La mort de la culture fait les beaux jours de la banque. J'ai beau taffer, je suis deux fois au-dessous de vos salaires moyens. Tu sais bien où tu peux te foutre ton statut citoyen. Ne lève pas ta main en l'air, les vautours ne sont pas loin. Au royaume des bâtards, les fils de pute ne sont pas moins.
Ne lève pas ta main en l'air, les vautours ne sont pas loin. Au royaume des bâtards, les fils de pute ne sont pas moins.
Leur usine part en Pologne.
On est une bonne usine.
En France, une heure de travail coûte 38 euros à une entreprise. Alors qu'en Pologne, c'est 5 fois moins.
Attends, vous attendez là.
C'est qui?
C'est des là. Soutiens.
Ah bonjour.
C'est Dédé. C'est Omar.
Des aventuriers.
Monique.
Et Monique. Et Monique, hein. Je l'ai pas vu là.
Dédé.
Hein. Tu vas te garer là?
Voilà.
Vas-y. Voilà.
Mais vous, vous n'êtes pas salarié, vous?
Non, je ne suis pas salarié, moi j'habite Argenteuil. Je suis enseignant, je suis syndicaliste dans mon établissement, un lycée qui est enclavé dans la dalle d'Argenteuil, là où Sarkozy a balancé racailles. Voilà.
C'est ce qu'il avait dit, bah voilà, les racailles elles sont sur la dalle, elles sont aussi parfois dans les entreprises. Elles se lèvent tôt le matin, elles ne sont pas trop à des fainéants. Ils ne lâchent pas l'entreprise et c'est leur outil de travail, c'est leur outil pour vivre.
En ce moment, on mange du pain et du fromage, mais bientôt, on va manger du pain et de la paille.
Voilà, c'est ça. C'est ça, les licenciements boursiers.
Il y a un semi-remorque qui passe de l'usine d'à côté et qui klaxonne.
c'est les actionnaires qui gagnent, c'est pas nous. C'est quoi cette inversion totale des valeurs? Vous comprenez ce que je veux dire? Et nous, on est seul au monde. On est seul au monde, ça ne suit pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que les gens ils se réveillent parce que aujourd'hui c'est nous, demain c'est vous. Il n'y a personne qui est à l'abri. Ils ont eu leur, comment dire, leur monde individualiste, ben ils l'ont. Et leur société d'ubérisation, c'est quoi? C'est, on va être tous des patrons smicards. Vous voulez ça? Ils cherchent quoi? Ils cherchent que les gens ils pètent un plomb, c'est ce qui va se passer. Non!
Qu'il fait là, il a amené.
On se prépare hein, pour passer la nuit dans l'usine parce que là, à partir d'aujourd'hui, on va bloquer l'usine. Il faut qu'on monte le ton, malheureusement. D'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on nous entende.
On va animer la rentrée. On va animer la rentrée.
Et là, vous êtes venu prendre des quoi? Des tables?
Des tables pour les camarades parce qu'on va faire un planning. Chacun son tour qui dort ici. Ben oui, on n'a pas le choix.
Donc on s'installe là.
Mais dessus, mais dessus.
Non, ça va pas.
Mais dessus, ça va pas tomber. La chance qu'on a, on a beaucoup de soutien de l'extérieur. Ah oui. Ils sont au courant normalement.
Et voilà, avec les chaises.
Mais doucement, hein.
Voilà, la nuit est tombée maintenant sur l'usine Semperite, ici à Argenteuil. La plupart des salariés grévistes sont partis, mais restent ceux qui, ce soir, sont de garde.
C'est la première fois qu'on occupe notre usine parce qu'on a toujours cru, on a toujours été là, on a toujours été présent. Et en fin de compte, du jour au lendemain, c'est fini, on ferme. L'obscurité de l'usine nous peine le cœur. C'est très dur dehors, on a toujours connu cette usine, on a toujours travaillé.
Alors là, il y a quelques-uns qui ont réussi à tirer un câble et sortir une télé. On a installé quelques chaises, un petit lit, des banquettes, sous un parasol dans l'entrée.
Pour rester la nuit, se relier entre nous, ne laisser personne de l'extérieur rentrer pendant ces moments difficiles, quoi.
Vous allez rester, vous, ce soir?
Ah oui, bien sûr, monsieur. Je resterai ce soir. Je reviendrai demain et je serai là jusqu'à la fin. L'usine partira pas tant que nous, on est là.
Vous êtes bien sur le répondeur de l'Europe. Nous sommes actuellement occupés à rédiger votre licenciement. Veuillez rappeler dans 100 ans, 3 guerres et 16 cracks boursiers. Bonne chance. J'ai une bombe à retardement qui en a marre d'être retardée, qui voudrait crever l'écran et vous présenter les JT. Simplement dire la vérité. Ta-da-dam, mesdames et messieurs, bonsoir. Le capitalisme a tué l'existence en la privant de son humanité. Il est urgent d'en changer. Seuls quelques bandits y trouvent leur compte en nous réglant le nôtre. Sortez votre argent des banques, comme disait l'ami Canto. Désertez les grandes surfaces, déchirez toute la presse. Boycottez la télé et par pitié, ne votez plus. Je répète, ne votez plus. Si vous croyez que ces actes sont vains, détrompez-vous. Vous êtes en train d'inventer une puissance nouvelle. Celle qui pense et commence par dire non à tout.
Allez, bye, ciao.
Ouais, merci.
Bonne nuit à Vigil.
L'usine se trouve 10 rue des Chartiers à Argenteuil. Vous pouvez aller soutenir les ouvriers parce que pour l'instant, la direction autrichienne a exprimé son refus de reprendre les négociations tant que le site ne sera pas évacué aux autorités françaises de gérer ça. Et peut-être que vu le nouveau plafonnement des indemnités de licenciement, tout comme l'assouplissement de leur cadre légal, grâce aux nouvelles ordonnances, les employeurs ont tout intérêt à laisser pourrir la situation. Affaire à suivre.
C'était comme un bruit qui court. Cette semaine, nous étions aussi en direct de Barcelone à la veille du référendum sur l'indépendance. Antoine, tu nous tiens au courant ?
Ouais, j'y reste un peu pour voir et entendre ce qui va se passer ce soir, demain et juste après. Une affaire à suivre aussi.
Peut-être la semaine prochaine, donc, selon la tournure que prendront les choses. En attendant, toutes les informations sont sur le site de France Inter. Abonnez-vous au podcast, faites courir le bruit sur les réseaux sociaux. Juste après les infos, vous retrouvez Daniel Morin et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.